Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Alors on danse.
Alors les marchés, ça allait, ça allait plutôt pas mal. Jusqu'à jeudi, ça rebondit un peu, on avait eu cette crise. Et puis vendredi, patatras. Alors on reste toujours à des niveaux qui sont, depuis le début de l'année, le CAC est toujours à peu près à 8%, le DAX à 8%, le S&P, bon, il est au-dessus de zéro, mais pas de beaucoup. Hein. Le Nasdaq, il est bien en hausse de 12%, il résiste assez bien. Il faut dire qu'il avait beaucoup bougé l'année dernière. L'Eurostock autour de 8%, le Nikkei 5%, Shanghai 6,4%. Bon, patatras, parce que à nouveau, on en a bien parlé pendant la première partie de l'émission, mais on va continuer. Maintenant, Deutsche Bank, Crédit Suisse. Donc, Romain Burnand, on se dit, je vous ai posé la question en première partie, mais c'est pas que je suis pas satisfait de la réponse, mais c'est que je voudrais aller un tout petit peu plus loin. C'est qu'est-ce qui empêche de dire, bon, alors, Commerzbank, Deutsche Bank, si ça continue, oui, la Bundesbank va faire des déclarations, et puis on va la faire racheter peut-être par je sais pas qui. Et puis après, la semaine d'après, vendredi prochain, ça va être une banque italienne. Et puis une semaine après, ce sera peut-être une banque française, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut empêcher ce jeu de massacre, en fait?
Il y a effectivement une prime aux gens inquiets. Parce que les personnes inquiètes ont toujours l'air plus sérieuses que les personnes insouciantes. Et donc moi, vous m'avez cité mon passé d'analyste, j'étais jeune analyste, j'avais un président de banque, j'avais vu un président d'une banque et il disait, oui, voilà, c'est dangereux, et puis ça va passer parce que nous, voilà. Et puis j'avais vu un autre président de banque qui disait, ça y est, on va rentrer dans un nouveau monde. C'est un nouveau monde, notre banque est extrêmement bien préparée pour ce nouveau monde et compagnie. Et finalement, il n'y a rien eu. Et je suis allé voir le président, puis je lui ai dit, écoutez, c'est quand même curieux, vous dites qu'il va y avoir une catastrophe, il va rentrer dans le monde. Ben, il me dit, oui, Romain, je vais vous dire, si je disais que s'il n'y avait rien qui se passait, j'aurais l'air idiot s'il se passait une crise, et s'il y a une crise, j'aurais l'air d'être visionnaire. Donc aujourd'hui, on peut tous dire, il y a une grave crise bancaire, c'est très grave. Moi, j'en ai connu 20 comme ça, si vous voulez, depuis 30-40 ans. Tous les 2-3 ans, les banques décrochent. C'est pas forcément pour ça que ça se traduit par une crise généralisée.
Je comprends. Hein. Ça, je suis d'accord
donc,
avec ça. Hein.
C'est là la difficulté d'explication. Parce que à un moment, les gens disent, il y a peut-être des choses qui se passent qu'on ne connaît pas.
C'est ça.
Hein. Et donc, c'est vrai qu'on voit la Silicon Valley Bank qui s'écroule. On se dit, est-ce que c'est spécifique à ce type de banque ou à cette banque? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de... Et la réponse est très difficile à porter. C'est très difficile. Il faudrait être naïf pour dire non. Il n'y a aucun sujet de préoccupation dans le secteur bancaire aujourd'hui. D'autant plus qu'on est tous d'accord pour dire depuis des années, les agents économiques sont très endettés. Et donc, depuis des années, on a eu l'habitude de vivre avec des taux d'intérêt extrêmement faibles. Et maintenant, les taux d'intérêt ont fortement monté. Donc, la donne a changé pour les emprunteurs. Alors la question qu'on peut se poser, si vous voulez, si je veux aller plus loin,
oui,
c'est dire, qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise financière?
Oui.
A-t-on tiré les leçons de la crise financière?
Voilà.
Et les bonnes leçons ou pas? Et mon expérience d'observateur, c'est de dire...
Et d'acteur, vous êtes quand même investisseur.
Investisseur, c'est de dire, quand dans un secteur, il y a une crise qui est très grave, la fois d'après, elle est éventuellement beaucoup moins grave.
Mmh.
Et même entre établissements. UBS, Crédit Suisse a eu de graves problèmes pendant la crise de l'éclatement de l'abus de l'Internet. C'était une banque très active sur ce segment. Après, c'est UBS qui a eu des problèmes pendant la crise financière. Maintenant, c'est UBS qui secourt Crédit Suisse. Hein, donc, et dans les secteurs d'activité aussi. Donc moi, j'ai observé beaucoup de crises et c'est toujours facile de dire ça y est, c'est un nouveau monde et compagnie.
Je dis pas tout à fait ça. Je dis, est-ce qu'on se sert pas, et Hervé parlait tout à l'heure de l'environnement de la hausse des taux, est-ce que finalement, dans cet environnement de la hausse des taux qui crée une sorte de malaise général, on passe pas d'un monde à taux négatif à un monde à taux à 5% sans malaise, est-ce que c'est pas facile en fait d'attaquer les banques les unes après les autres? Et vous, investisseurs, est-ce que vous vous dites, bah tiens, je préfère pour l'instant retirer mes billes des banques, elles sont super solides, j'ai fait mon analyse, il n'y a pas de risque, sauf que si on commence à dire, c'est un peu comme les rumeurs, hein, si elles commencent à se propager, bah finalement on croit qu'il y a un fond de vérité.
Alors comme investisseur, il y a un cas de figure qui est ça fait 5 ans qu'on sait qu'on est dans un environnement économique qui est difficile. Hein, vous vous souvenez le Brexit, vous vous souvenez Trump, vous vous souvenez tout ça. Donc ça fait 5 ans que les valeurs dangereuses, cycliques,
oui,
ne coûtent pas cher. Donc ça ne veut pas dire qu'elles ont jamais rebondi, mais depuis 5 ans, elles ne sont pas chères et elles sont même de moins en moins chères. Donc, les actionnaires des banques, comme des sociétés cycliques, savent qu'il y a du danger compte tenu du cycle économique.
Vous voulez dire que c'est déjà dans les prix ?
Alors, c'est
déjà on avait bien rebondi avant
On avait bien rebondi avant ça.
On a tout perdu.
Reperdu, voilà. Donc, on est dans un marché qui est depuis assez longtemps anxieux vis-à-vis des sociétés qui sont risquées compte tenu de ce qui s'est passé lors des derniers cycles.
Et quand vous entendez Virginie Robert qui dit « Moi, je n'investis pas dans les banques parce que je ne comprends rien »,
Virginie a raison. Si elle a très belle haute valeur par ailleurs et voilà. Il faut de tout pour faire un monde. Vous voyez, il y a des investisseurs qui cherchent plutôt des valeurs décotées, qui sont risquées, sur lesquelles ils pensent pouvoir gagner de l'argent. D'autres qui préfèrent des valeurs qui ont...
Vous voulez dire que vous avez deux styles de gestion différents.
On peut avoir deux styles de gestion différents. Et voilà. Et puis après, il ne faut jamais dire « J'achèterai jamais » parce que j'ai des investisseurs...
Elle dit « J'achèterai jamais ».
Peut-être.
Ah, j'ai pas dit ça.
Si, vous l'avez dit. J'entends ce que je veux. C'est moi qui ai dit, j'entends ce que je veux.
Pas de banque. Ouais. C'est pour d'autres raisons. C'est que nous, on a un process et ça ne rentre pas dans le process, c'est tout.
Pourquoi ça ne rentre pas dans le process ?
Et parce que nous, on a un process centré sur les avantages compétitifs. Et qu'en fait,
vous êtes en train de nous dire qu'aucune banque a un avantage compétitif ?
Peut-être. Mais le premier des curseurs pour faire bouger les actions des banques, ce n'est pas les avantages compétitifs. Même si j'entends bien qu'il y a des banques qui sont de très meilleure qualité et qui ont probablement des avantages compétitifs, le premier curseur, pour moi, c'est un secteur momentum. Et on voit bien, et Romain l'a très bien exprimé, c'est cyclique. Et effectivement, et la perturbation.
On l'a sans gêner, là. C'est pas comment dire.
Non, pas du tout. C'est ça. C'est cyclique. Et donc, moi, je préfère. Il y a d'autres secteurs où les avantages compétitifs s'expriment vraiment. Et comme nous, notre process, c'est ça. Et par ailleurs, je reviens, je ne sais pas, j'ai pas la lecture. Compétente sur les bilans bancaires.
Ce qui est quand même dingue, c'est pour ça que je disais mourir en bonne santé, c'est que les résultats des banques ont été spectaculaires en 2022. Romain.
Ah oui, ils ont été excellents, sauf ceux qui étaient exposés à la Russie, mais c'était un cas ponctuel qui a été réglé.
Et ils ont profité notamment de tous ces dépôts qu'ils ont à zéro maintenant, qu'ils peuvent replacer à 3%. Enfin, c'est quand même une situation qui, sur le papier, est plutôt assez bonne pour les banques.
C'est une situation qui est assez bonne sur les banques. Surtout, la surprise de ces dernières années, c'est que le risque de crédit est un risque qui était extrêmement, extrêmement faible. Jamais on aurait... Vous auriez dit à quelqu'un, il y a une guerre en Ukraine, qu'est-ce que les banques vont perdre sur leur portefeuille de crédit ? La réponse, c'est pas grand-chose, mais quasiment rien. C'est extrêmement étonnant. Donc, elles avaient fait des provisions pro-Covid, elles ont fait des provisions sectorielles pour crise, gaz et compagnie. Alors, on a eu de la chance aussi, l'hiver a été, il n'y a pas eu de pénurie de gaz, on s'est débrouillé. Le scénario économique aurait pu être plus triste que ce qui s'est produit. Donc, les banques, effectivement, rentrent dans cet environnement. Le vrai sujet, c'est celui qu'Hervé disait, il faut qu'il y ait un vrai stress sur un actif bancaire.
Mais on ne peut pas provoquer le stress. Si on provoque en répétant, je prends n'importe quel nom de banque, et puis je dis, peut-être qu'il y a un problème, et que les gens retirent leur argent, il y a un problème de liquidité, donc on le crée le problème, s'il n'existait pas. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Oui, bien sûr.
Parce que Hervé dit non, la crise, elle vient s'il y a un problème sous-jacent. Mais là, je peux le créer, le problème. Pas moi, mais...
Oui, mais les régulateurs étudient les dépôts des banques. Et les dépôts des banques sont composés de beaucoup de composantes qui sont parfois très, très attachées aux banques.
OK.
Donc, vous voyez, la Silicon Valley Bank avait la particularité d'avoir des gros dépôts individuels. Et donc, et en plus, dans un environnement extrêmement internisé, si je peux dire, c'était facile de les virer l'un à l'autre.
Mais moi, ma question, c'est par exemple, Deutsche Bank, on peut la faire tomber, là ? Alors qu'il n'y a pas de problème, a priori, est-ce qu'on peut la faire tomber et du coup, organiser un sauvetage d'une banque en bonne santé ?
Jusqu'à présent, la Deutsche Bank, à ma connaissance aujourd'hui, n'a pas de signe de faiblesse, d'accord, si ce n'est la baisse de son cours de bourse.
Hervé.
Moi, trois choses une fois.
Toujours trois choses. Ouais. Rapidement, parce que trois choses, ça fait beaucoup.
La première chose, c'est qu'on voit bien, en fait, lorsque l'on regarde une banque, qui est un animal compliqué, on a toujours en mémoire la crise précédente. Et d'accord, on avait eu des problèmes sur les portefeuilles de crédit. Et donc là, on était très attentifs et ça se passe bien. Par contre, les portefeuilles d'obligations, le risque de taux, je pense qu'on a nettement moins... regarder les choses précisément, et pourtant les taux avaient beaucoup monté. Le deuxième point, c'est le regard des actionnaires sur les banques. Moi qui suis un peu âgé, il y a 25 ans, une banque, ça se... ça se cotait en bourse 3 fois la valeur nette. Aujourd'hui, ça se cote 1 fois. Ce qui veut dire que les méga-banques qu'on a fait, le durcissement de la réglementation, ça dit des choses tout de même sur le regard des investisseurs concernant les banques.
Et troisième point.
Et le troisième point, merci Marc, c'est que en fait, lorsqu'on voit les anticipations de taux courts aux États-Unis, lorsque l'on voit même les prévisions de la Fed, en fait, il y a le sentiment que ce qui se passe sur les banques aujourd'hui, ça va peser sur la croissance économique, que ça va pas être bon au cours des prochains trimestres, que les banques centrales vont être obligées de changer de pied très vite. Et ça, c'est quand même une hypothèse assez lourde. Mais le marché aujourd'hui nous envoie un message qui est vraiment pessimiste.
Ben Aouda.
La question est d'une telle importance que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, enfin de la zone euro, pardon, se sont penchés sur cette question-là, sur le parachèvement de l'Union bancaire européenne. Il faut se souvenir qu'en juin 2022, l'Eurogroupe avait adressé une déclaration pour dire qu'il faut parachever cette union bancaire, notamment par un mécanisme de résolution d'un cadre commun, en tout cas de gestion des crises, notamment par un système commun de garantie des dépôts, et que pratiquement un an plus tard, il n'y a toujours rien, et que le commissaire européen aux affaires économiques dit que ça sera pour le trimestre prochain. Et peut-être que ce qui est en train de survenir ces heures-ci
va accélérer. Comme d'habitude, en fait, la construction européenne se fait souvent à coup de crise.
Ah, exactement. Et donc, il va falloir attendre ce qui va ressortir de ces décisions au niveau de la zone euro.